depuis.
Je travaillais, oui, absolument. Depuis un an, les choses ont changé.
Ce que je peux vous dire à propos de ça, c'est que j'ai une maman qui habitait Montpellier, qui était très, très tolérante, qui avait beaucoup voyagé dans le monde et qui adorait les peuples dans leur intégrité. Mais elle vivait à côté d'un lycée, d'un collège, enfin d'un ensemble. Et qu'au début, il n'y avait aucune femme voilée qui allait à l'école et que 40 ans après, elle était toute portée à voiler, que ça lui posait un petit problème. Voilà. Alors qu'elle était absolument la main tendue à tout le monde. Voilà. Elle trouvait que c'était une affirmation de la différence qui la gênait un petit peu. Voilà.
C'est la menace masculine.
Comment ?
J'insiste sous la menace masculine. À Vitry, en tout cas, c'était ça tout à fait. Ce sont
les
grands-pères machin qui mènent une loi là-dessus.
Ah, on continue le tour de table. On continue le tour de table. Nicole.
Oui, Nicole Armand. J'ai connu Stéphane dans le cadre de la préparation de mon doctorat que j'ai obtenu. Et puis je continue à suivre.
D'accord. Et à un moment, on avait pensé faire un DU.
Oui, mais c'est le. Alors, on est en pleine restructuration de nos services. Donc, c'est pour ça que j'ai laissé en stand-by, mais je n'ai pas oublié. Et,
parce que c'est notre projet avec Étienne depuis 20 ans.
Non,
ça fait 20 ans aujourd'hui.
Je suis persuadée que ça va se faire.
On a failli réussir.
Mais on va réussir.
Vous réussirez.
Non, ça va se faire, ça va se faire. C'est juste que on a changé de chef de service, l'université repense les choses. Il y a eu les blocages l'année dernière qui se sont en décembre. Donc ça complique un peu les choses.
Mais traiter la diversité culturelle dans la société française contemporaine n'est pas facile, puisque même à Gonesse...
Je suis cadre enseignante à l'école d'infirmières de Gonesse et le voile est une vraie problématique puisqu'il prend sa place de plus en plus depuis la loi de 2017. Là, ils ont la possibilité de porter le voile au sein même de l'école, et pas du tout d'ailleurs dans les services. Nous avions peut-être une personne sur 85 personnes. Aujourd'hui, je peux compter plus de 40% de personnes qui portent le voile. Des personnes qui se sont converties au décours des 3 ans. Des personnes qui, sous couvert peut-être de la provocation, vont porter le voile. Mais ce n'est pas simplement un voile, c'est vraiment habillé de haut en bas.
Et du coup, notre travail sur l'interculturalité qu'on faisait depuis 4 ans...
Parce qu'il vient depuis 4 ans intervenir sur l'interculturalité, la laïcité...
Et c'est terminé.
Et on déclenche un processus de TD qui vont amener les étudiants à réfléchir, à créer un projet autour de l'interculturalité pour les présenter aux premières années. Il y avait un cycle comme ça de 4 ans qui permettait de réfléchir ensemble sur ce qu'était l'interculturalité. Et aujourd'hui, moi, je constate que ça dérange énormément et que certains étudiants me demandent que ça s'arrête parce que c'est inentendable, quoi. C'est pas possible, on veut rester... Ce qui me choque beaucoup, ce sont les catholiques qui prennent le voile aujourd'hui, par provocation, et ils le disent. Et ça, c'est quelque chose de très nouveau.
Une revendication identitaire rebelle.
Oui, parce qu'ils sont très jeunes, ils ont entre 18 et 17 ans. Ils rentrent à 17 ans, 18, 20 ans quand ils arrivent. Et bizarrement. Et moi, je n'ose pas trop intervenir là-dessus. Pas par peur du tout, mais je ne sais pas ce que ça peut provoquer. Je ne connais pas les conséquences de. Déjà, on parlait déjà à travers cette aidée. Parce qu'on leur demande de raconter leur histoire et leur origine, de se parler de ce qui se passe dans la famille et comment, pourquoi ils portent le voile, pourquoi ils font comme ça, enfin ils se parlent et ils se découvrent. On s'autorise à dire, on s'autorise à parler de cette histoire, quoi, et ça devient important. Et là, on va pouvoir inscrire l'interculturalité, la laïcité dans ce partage. Et là, c'est intéressant. Mais voilà.
Enfin, ça a été.
C'est pas seul, non, franchement.
Ouais. On arrête là, c'est fini, là, c'est la pression.
Oui, on souhaitait arrêter.
Comme à l'Institut de Puriculture.
Mmh. Voilà. Donc,
donc c'est pour ça, tu vois, cette dimension politique finit par polluer complètement la réflexion anthropologique et à la limite psychanalytique même aussi. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire ce processus identitaire qui prend des atours religieux? Qu'est-ce que ça veut dire?
Quand j'étais jeune, les jeunes filles catholiques qui se rebellaient contre les familles devenaient communistes.
Hein. Oui, c'est peut-être un mieux. Juste, continue le tour de table.
Non, mais je pense que ce que ça veut dire, c'est que on est dans une phase.
Tu présentes.
On est dans une phase d'interrogation et de rupture totalement fondamentale de l'ensemble des sociétés. Enfin, je crois que c'est ça que ça veut dire. Enfin, et que, effectivement, ça prend cette forme, ça peut en prendre d'autres.
Mais... Totalement.
Bon, moi, je suis avec Gustave Massia. Donc, je suis un peu en continuité entre l'anticolonialisme et l'altermondialisme.
Oui. C'est et modeste. Oui, Gustave est quand même un des piliers d'attaque et des autres mouvements altermondialistes de Forum social mondial depuis 35-40 ans.
Et c'est notre grande référence morale aussi. Ouais. Gus, tu es notre grande référence morale.
L'attaque est
importante. Afaf. Alors. Oui, donc je suis psychologue clinicienne dans un service d'accueil de jour et d'accompagnement social de la Croix-Rouge, à Vitry, même territoire donc. Mais moi en ce moment, je passe des gilets jaunes à tout ce qui se passe, en tout cas à l'actualité politique en Algérie.
Ah, oui. C'est un beau cadeau.
Oui. Ah oui. Ah oui, pour l'instant on est là, oui, on est content. Hein. Et puis voilà, c'est presque jubissime, quoi. Pardon.
La Croix-Rouge, c'est une catastrophe.
Alors, laquelle Croix-Rouge?
Eh bien, celle de qui a sous sa gestion plusieurs établissements médico-sociaux, notamment dans le Val-de-Marne.
Dans le Val-de-Marne.
Je connais.
D'accord. Alors.
Non, mais simplement, je vous disais que vous étiez sur plusieurs fronts, et il me semblait que le front même de la Croix-Rouge, qui est votre employeur, était certainement un front aussi de présence, de réflexion militante, etc. Non, non mais bon, je suis
On continue, le tour de table. Donc, Catherine Sultan, donc cofondatrice avec Étienne, Jacqueline, Rony. De regard il y a 10 ans, si, quand même. Non, non, mais t'as cofondé, je suis désolé, t'étais là à l'origine, au tout début.
Ouais. Donc, moi, je suis magistrat, pendant très longtemps, autour de la question de l'enfance, juge des enfants et tout ce qui va autour, plus PJJ, et voilà. Et là, maintenant, je m'occupe je préside des assises. Alors, la question du voile, parce que les assises, c'est les jurés populaires. Et donc, on est. Pas de solitude. Enfin, on met un voile sur le voile. Parmi les jurys populaires, il y a des femmes voilées. Parce qu'il n'y a pas de. On se débrouille, c'est compliqué. Les textes qui régissent les assises sont des textes révolutionnaires. Et qui sont extrêmement beaux d'ailleurs, qui ancrent cette institution dans quelque chose de très, très formel, très historique. Et on dit que la personne doit jurer tête découverte. Donc on demande aux dames, est-ce que vous seriez prêts à découvrir votre... Mais il n'y a pas de position de tous les présidents d'assises. C'est ce que vous seriez prêts à... Donc elles ont, comme les gens souvent n'ont pas tellement envie au départ de siéger au jury, donc comme jury d'assises, donc non, je n'en ai pas. Donc madame, on vous dispense. Donc les femmes qui ne portent pas le voile, bon, on va venir avec le voile demain, comme ça vous allez nous dispenser. Donc on sent les tensions très... on se prend les pieds dans le voile, quoi. Voilà, et moi j'ai pas trouvé la... en fait, ce qu'il faudrait peut-être, c'est ne pas dispenser ces personnes et qu'éventuellement elles soient récusées. Mais si elles sont récusées, ça va être très très. Enfin, c'est ressenti comme quelque chose. C'est forcément discriminatoire. C'est. Bon, un juré doit être impartial. Est-ce qu'on est impartial quand on. Enfin, voilà, c'est très très compliqué. Je commence lundi à Bobigny, je pense qu'il faudrait m'aider à trouver la solution.
À quoi ça me fait penser? Ça me fait penser à un arrêté des juges de paix de l'an, je crois que c'était l'an 3 ou l'an 4. Je te donnerai le document original, parce que j'ai l'original, dans lequel il disait qu'il était obligatoire de porter la cocarde sur le couvre-chef chez les femmes. et que toute femme qui retirait sa cocarde était passible de prison, et toute femme qui obligeait une autre femme à retirer la cocarde et voire l'arracher était bannie à vie du territoire français. Donc s'ils mettent une cocarde sur le voile, peut-être que ça serait une solution.
La synthèse.
La synthèse.
Michel. Alors, Michel Leclerc-Olive, je suis chercheur et mon terrain de prédilection et mon expérience, c'est plutôt les zones minières en Afrique de l'Ouest, où bien sûr la question de l'islam est présente, hein, par exemple en ce que les imams de Bamako valident les pratiques des multinationales, déplacer les villages, déplacer les cimetières, c'est écrit dans le Coran. Donc il y a une tension autour de ces questions, évidemment, mais elle est complètement étouffée, elle n'est pas exprimée, elle n'est pas débattue, parce que, évidemment, il y a une telle confiance dans l'islam que les gens...
Et le refus du code de la famille.
Oui.
Par les imams.
Oui, et il y a un autre code qui vient, il y a encore une autre loi qui vient d'être, qui avait été votée et qui a été écartée, j'oublie laquelle, mais c'est surtout le code de la famille. Les chefs religieux ont obtenu qu'un vote de l'Assemblée ne soit pas validé par le président et que la loi soit écartée, qui était un code un petit peu plus progressiste que le précédent sur le statut des femmes. Et vous avez certainement entendu parler des violences dans le centre du pays.
Sur les peuls.
170 morts.
Qui sont liés évidemment à des... Alors, il y a un article sur je ne sais pas quel site très intéressant où un chercheur malien.
The Conversation. Le site The Conversation.
Je ne sais pas, j'ai oublié.
Excellent article.
Oui, il tient absolument à ce qu'on ne lise pas ces conflits en termes ethniques, mais en revenant à l'origine des conflits qui sont de type socio-professionnel. Et j'ai vu la même chose dans la zone que je connaissais bien dans l'Ouest, où c'est la lecture internationale qui a fait d'un conflit socio-professionnel un conflit ethnique. Et les Kalachnikovs sont dans les greniers à mille dans l'Ouest. Ça peut exploser tout le monde.
Si.
Bonjour, moi je m'appelle Iman, désolée pour le retard. En fait, c'est bien l'événement sur la médiatisation.
On y arrive, oui.
Oui.
Et vous êtes une étudiante de Sciences Po, c'est ça?
Oui, voilà.
Très bien.
Et c'est Madame Marcio qui m'a transcrit.
Absolument. Oui, j'ai reçu votre inscription. Oui.
Et du coup, moi, j'écris un mémoire sur les discours autour des travailleuses domestiques migrantes au Liban. Et ce qui m'intéresse à l'événement, c'est la partie sur l'utilisation d'un discours d'une langue mondialisée. Voilà.
Bienvenue, non, tout à fait. Annie Marcillou est une ancienne du Centre international de l'enfance, avec lequel on travaillait il y a 25 ans avec... Nous sommes des vieux, c'est pour ça. Et c'est bien que les jeunes...
Dominique Père, psychiatre institutionnel à la retraite, longtemps à Vitry, et psychiatre libéral, la mise à la retraite il y a 6 mois. Je suis passée d'institutionnel
libéral toujours à Vitry. Mm-hmm.
Et passionné de toutes ces questions-là depuis très longtemps et qui continue à l'être, même si je n'ai pas d'inscription sociale, institutionnelle qui légitimait un peu ma place. Il faut que je la relégitime autrement, pas en pensant, je ne sais pas comment, en tout cas en restant, si je suis acceptée dans cette association. Je me suis trouvée très chanceuse.
Flatteuse. Ouais, non, Jacqueline.
Bon, moi, je suis une sociologue, chercheur associé à l'Université de Lorraine. Mes centres d'intérêt, pour le moment, c'est surtout la santé d'Étienne. mais j'ai
il y a
pas mal à faire. Et j'ai surtout travaillé sur les émotions, notamment au niveau de l'interculturalité, comment peuvent se gérer les émotions, puisque c'est quand même la base, la peur, la honte, beaucoup d'émotions qui passent. Et j'ai un prochain colloque sur les problèmes de classification, de catégorisation, comment on catégorise, quels sont les effets. Donc, je suis un peu sur ces recherches.
Alors, on est très heureux qu'Étienne soit là aujourd'hui.
Oui, je ne sais pas jusqu'où j'irai d'ailleurs, parce que je reste encore très, très fatigué. Donc, je suis Étienne Leroy, j'étais professeur d'anthropologie du droit à l'Université de Paris 1, en retraite depuis une dizaine d'années, mais en retraite très active jusqu'au moment où, il y a un an, je suis tombé dans un cancer de l'estomac qui m'a fait perdre 20 kilos et puis bien des difficultés que vous pouvez imaginer. Je suis en train apparemment d'en sortir. Tous les indicateurs de scanner sont positifs. On espère que les choses vont pouvoir continuer à évoluer. J'essaie de continuer à réfléchir, travailler avec tous les réseaux dans lesquels je suis inscrit. Et regard est naturellement quelque chose d'extrêmement important pour moi. Donc, pour moi, c'est une fête de participer à cette réunion aujourd'hui, comme c'était une fête, grâce à Catherine, de pouvoir participer à in abstentia, mais par une vidéo, vraiment, ce sont des réseaux d'amitié, là, à Roubaix, donc, un colloque sur la justice des mineurs, et un des grands, parmi les plus grands magistrats que j'ai jamais connus, Alain Bruel. Et donc, Catherine m'a donné la possibilité de parler d'interculturalité dans un contexte où ce n'est pas habituel de pouvoir en parler. Donc tout ceci, ce sont des stimulations intellectuelles qui vous redonnent l'envie de vous battre, car c'est vraiment extraordinairement dur. Voilà. Alors, j'en dirai pas plus. Peut-être que j'irai pas jusqu'au midi et demi, mais en tout cas, quel grand plaisir de discuter et de retrouver cette ambiance chaleureuse, amicale, qui est la condition en fonction desquelles nous pouvons penser que nous avons ensemble un avenir. Et Gus, sincèrement, ta figure symbolique a été pour nous un moment exceptionnel dans que tu sois ici ce matin présent, et pour moi un très très grand plaisir. Merci.
Et nous avons cette fête de tous, nous partageons cette fête, que tu sois là, que Gus soit là. Voilà, que nous nous retrouvons, c'est effectivement très festif.
Bon, et que Rony soit là aussi.
Et que Rony soit là, bien sûr. Que Rony soit là, et que Rony soit là, évidemment.
Ne l'oublie pas.
Tout à fait. Tout à fait. Mais j'espère que la jeune génération partage cette fête et nous souhaitons vous associer. Hein, vous y associer parce que bon, c'est vous qui comptez maintenant. Hein. Philippe.
Alors, je suis donc Philippe Segers, fils de Jacques Segers, agriculteur, petit-fils de Jacobus Segers, agriculteur, qui est arrivé en France avec ses sabots après la crise de 1929, donc plutôt ancré dans un territoire rural, mais j'ai grandi à proximité de Meaux. J'ai été au collège dans la zone de Beauval, une zone voilà, où était tourné le film La Haine pour les cinéphiles.
Chanteloup les vignes, la haine. Si, c'est Chanteloup.
Chanteloup, bon, il y a des parties à moi aussi.
Oui,
Bopal, enfin bon. Voilà. Moi, j'ai une formation en physique de l'atmosphère, avec un intérêt quand même pour d'autres aspects culturels. En même temps que je faisais mes études de physique, j'ai suivi un doc de sociaux et de psychologie. Voilà, donc c'est un intérêt assez ancien. Et maintenant, je m'occupe de montage de projets européens. Donc moi, la dimension interculturelle, je la connais plus par sa dimension européenne. Je travaille sur des projets de recherche européens depuis une vingtaine d'années. Voilà.
Et
jardinier. Parce
que voilà, grand militant de l'activité quotidienne dans notre bâtiment, notre immeuble.
Voilà.
Donc, oui, bah, merci beaucoup, donc, Ronnie, de bien vous revenir. Ce qu'on avait fait, c'était avec Michel au mois de juin de l'année dernière, donc ça fait un an maintenant, hein, presque un an. On avait vu à quel point ces compagnies minières manipulaient les médias pour faire ce qu'on appelle maintenant communément du greenwashing, c'est-à-dire faire passer sous un dehors un peu écologique toute leur pratique. Et l'idée est venue de se poser la question, comment est-ce que les médias jouent un rôle dans la circulation des idées sur la diversité culturelle? Et il se trouve bon que la semaine dernière, une rumeur a couru les médias et qui a débouché...
Pardon ? C'était dans les médias que ça courait, cette rumeur ?
Ah oui.
Les médias et les réseaux sociaux.
Les médias et les réseaux sociaux, oui.
Les réseaux sociaux.
Et qui a débouché sur concrètement un lynchage, là où la diversité culturelle s'est retrouvée confrontée au conflit le plus abject qui soit, puisque il suffisait qu'il y ait une voiture blanche qui circule avec des gens un peu patibulaires pour qu'un groupe de fanatiques se précipite dessus et leur casse la figure. Donc, cette question médiatique, comment les médias utilisent, manipulent, organisent et structurent notre vision de la diversité culturelle, est apparue importante. Et j'ai demandé à Ronnie s'il accepterait d'intervenir. Et donc, aujourd'hui, c'est encore plus d'actualité. Donc, on va peut-être te donner la parole sur le thème entre l'essentialisme et le culturalisme. C'était un petit peu
Oui.
La discussion qu'on avait eue.